Bon, écoutez, on va commencer. J'entends que ça chahute sur ma gauche. On va commencer un petit peu. Là, on avait terminé la semaine dernière, et pas tout à fait. Je vais revenir un petit peu plus haut parce que je vais faire une transition. Donc, je reprends le cours plus ou moins où je l'avais laissé sur la question de la néothénie de l'expression génétique. Donc, les auteurs, je vais rappeler, donc, c'est relativement simple, avaient pris, là on est entre les chimpanzés et les sapiens, chimpanzés en rouge, sapiens en bleu, et le rhesus monkey, le macaque, en vert. Et donc, ce qu'avaient fait donc, ces auteurs, c'est, on regarde dans le cortex préfrontal dorsolatéral, qui est la structure bon, la plus, je dirais, évoluée, d'une certaine façon, sur le plan collectif, de 39 sapiens, et de 14 chimpanzés, et puis 9 macaques d'ailleurs aussi qui sont là. Et puis on regarde les gènes qui s'expriment au cours du développement, en fonction de l'âge donc, en fonction de l'espèce et en fonction du sexe. Et comme je vous le disais la dernière fois, le sexe ne fait rien à l'affaire puisque moins de 2% des variations, donc ça n'a pas de sens, sont liées au sexe. Évidemment, l'âge et l'espèce sont des points importants, même si une très grande majorité des gènes, vous voyez ici, entre l'homme et le chimpanzé, n'ont pas une expression très très différente en fonction de l'âge, entre 0 et 40 ans. 40 ans, c'est la fin pour le chimpanzé. Donc, les auteurs ont regardé de façon un tout petit peu plus près plusieurs gènes et si on regarde ça, on se rend compte qu'un grand nombre de gènes, 48% au moins, ont des cinétiques d'expression qui sont des cinétiques différentes. Et vous pouvez les classer en quatre catégories. Vous voyez ça ici, ça c'est EZH1, c'est un gène qui est exprimé, qui est important dans la structure de la chromatine en fait. Et vous voyez par exemple qu'au cours du développement, ça monte moins vite chez Sapiens que chez le chimpanzé en bleu. Vous voyez ici aussi ce qui est important, c'est quand on prend un groupe externe comme le macaque s'est séparé plus tôt. Et donc quand on voit que le chimpanzé et le macaque ont les mêmes cinétiques, ça veut dire que c'est l'homme qui a évolué, puisque l'homme s'est développé plus tard. Donc le groupe externe, ça sert à ça, c'est savoir si une différence entre le chimpanzé et l'humain est liée à une modification de chimpanzé ou une modification d'humain. À partir du moment où le chimpanzé réagit comme un macaque, alors ça veut dire que c'est l'humain qui a évolué. Et dans ce cas-là, c'était un ralentissement de l'expression de ce gène et de toute une famille de gènes qui suivent le même pattern au cours du développement. Vous pouvez avoir aussi, évidemment, une accélération humaine. Vous voyez aussi que c'est une accélération qui est spécifique de l'humain puisque macaque et chimpanzé en sont au même point. Et puis, vous avez l'inverse. Ici, le groupe externe, c'est toujours le macaque. Et vous voyez que là, c'est une accélération du chimpanzé, le macaque et l'humain étant au même point, etc. Mais ça, ça correspond quand même à environ la plus grande partie des gènes. Hein, c'est environ 58% des gènes qui sont 38% des gènes. Le reste se partage entre les trois autres catégories. Donc ce 38% correspond à un enrichissement extrêmement robuste, hein, qu'on trouve non seulement dans le cortex frontal dorsolatéral, mais aussi dans le gyrus frontal supérieur, comme vous voyez ici. Donc ça, c'est human néothénique, donc ceux qui seront ralentis chez l'homme, et vous voyez que vous avez ce ralentissement qui est important. On le voit assez bien ici dans la divergence, c'est-à-dire que, vous voyez que chez ces animaux, on a une maturation très rapide, et ensuite on est stable, hein, voire... Et chez Sapiens, ça continue à monter jusque vers l'âge de 10 ans quand même. Et puis ensuite, bon, ça se tasse. Donc ça, c'est vraiment un phénotype de type néothénique. C'est un nombre limité de gènes, bien entendu. Et pour chacun de ces gènes, si on veut comprendre la signification de ce ralentissement, il faut voir dans quel type cellulaire ils sont exprimés, il faut voir quelle est leur fonction. Cette analyse montre que ces gènes sont essentiellement exprimés dans la matière grise et puis ont des fonctions qui sont associées pour l'essentiel à des phénomènes de croissance et de développement, ce qui nous étonnera évidemment moyennement. Donc ça m'a amené, ou ça m'amène maintenant à un article de 2012 de Liu et collègues qui est un article qui a l'air un peu compliqué, mais qui n'est pas en fait extraordinairement compliqué. Et je reviendrai sur un article un peu plus antérieur de Sommel dans un moment, pour présenter une vue un petit peu synthétique des questions qui sont liées à l'hétérochronie. L'hétérochronie étant une différence dans le temps de l'expression de gènes en fonction des différentes espèces. Donc évidemment, on peut s'étonner que de si petites différences génétiques, hein, c'est toujours le thème du cours, aient de telles conséquences comportementales. Donc ici, ce qu'on a comparé, c'est le cortex préfrontal en rouge et le cervelet en gris bleu, comme vous pouvez voir ici. Toujours pour les trois mêmes espèces, sur environ 12 à 26 individus par espèce. Et on a retenu les âges de 0 à 98 ans pour Sapiens, de 0 à 44 pour Pan, pour le chimpanzé, et de 0 à 28 pour les macaques. C'est en fait des âges à peu près semblables, puisque 28 ans et 45 ans, c'est la fin de la vie pour les deux espèces, macaques et chimpanzés, respectivement. Et c'est 12 000 gènes hein, qui ont été exprimés par RNA-seq, par séquençage d'ARN, aussi par microarray. Et dans ces 12 000 gènes, on voit que 8 000 ont leur expression qui se modifie au cours du développement, dans les trois espèces. On se constate surtout qu'un nombre important de gènes liés à l'âge sont exprimés dans le cortex préfrontal humain. Vous voyez ici, par exemple, les changements spécifiques de humains se produisent essentiellement là en rouge, donc dans le cortex préfrontal. Donc, moins dans le cervelet, bien entendu. Chez le chimpanzé, on s'en fiche un peu. Le macaque a un cervelet qui a l'air de fonctionner relativement différemment de nous. Mais les gènes liés à l'âge, ben, c'est souvent les mêmes. Mais les différences d'expression des gènes dans le cortex préfrontal humain sont relativement fortes, sont même assez fortes. Donc, vous vous rappelez probablement la question des modules, et j'en étais arrivé là la semaine dernière, les modules, c'est-à-dire que vous avez des gènes qui sont co-régulés, c'est-à-dire que quand un monte, celui d'à côté monte aussi, quand il descend aussi. Et ça veut dire, si vous voulez, qu'ils sont sous le contrôle très probablement de gènes qui contrôlent l'expression d'une grande partie de ce module. Ce sont des gènes qu'on appelle les gènes hub. Un petit peu comme dans les aéroports. Et vous voyez ici que vous avez 5 modules, hein, M1, M2, M3, M4, M5, qui ont été définis donc, dans les trois espèces, qui sont des modules de gènes qui sont co-régulés. Et vous voyez ici que rouge, de nouveau, c'est l'humain, vous voyez que là, chez l'homme, c'est une expression néoténique, en fait, tardive. Ici, on a aussi une expression plus tardive chez l'homme que le chimpanzé et chez le macaque. Et ici aussi, on peut avoir des expressions différentes. Là, c'est une expression accélérée, c'est-à-dire que ça commence beaucoup plus vite chez Sapiens que chez les autres animaux qui ont un retard au démarrage par rapport à Sapiens. Donc, c'est là, on est dans le cortex préfrontal, bien entendu. Regardez juste le haut, ça, c'est la même chose, plus ou moins, donc c'est pas la peine de vous embêter avec ça. Et vous voyez que les modules M1, M3 et M5, hein, M1, M3 et M5, évidemment, montrent un retard d'expression chez nous. Pour M4, la différence n'est pas significative, bien entendu, et pour M2, Sapiens, c'est en avance, ce que je venais de vous dire. Donc, il y a évidemment un problème, c'est qu'il faut voir les différences de développement des trois espèces, c'est-à-dire que la maturité sexuelle, par exemple, chez un Sapiens, c'est 13-14 ans, enfin, ça dépend des Sapiens. Chez les chimpanzés, c'est 8-9 ans. Et chez les macaques, c'est autour de 3,5, ce qui implique la nécessité d'ajuster. Et cet ajustement fait que, je vous passe l'algorithme, permet de conserver comme différentiel dans le cortex frontal que les modules 1, 2 et 5. Hein, 1, 2 et 5. Voilà. Donc celui-là est accéléré et ces deux-là sont retardés. Donc ça sous-entend bien entendu des co-régulations, je vous disais, et donc des mécanismes partagés de régulation. Le plus simple étant l'implication d'un petit nombre de facteurs de transcription qui sont partagés, qui sont en commun. Donc ce qu'on fait quand on fait ça, ben c'est simple, on va chercher dans les promoteurs des gènes des sites de fixation de facteurs de transcription qui pourraient être partagés par les gènes d'un même module. Et ce qui a été fait, donc là je vais me concentrer un petit peu sur M1, hein, c'est un exemple, il est assez fort, c'est celui qui est en fait le plus fort. Et il y a quatre facteurs de transcription qui ont été identifiés. Et ces quatre facteurs de transcription, vous les voyez ici, c'est MF2A, EGR1, EGR2, EGR3. Donc ça, c'est peut-être pas, on s'en fiche un tout petit peu, c'est des noms, hein. Mais vous verrez que ce sont des faits de transcription qui sont assez intéressants du point de vue de la plasticité du système nerveux. Donc, et il y a 184 gènes qui composent le module M1. Donc, dans le module M1, il y a environ 184 gènes. Et si on regarde ce que font ces gènes, ben, ce sont des gènes qui sont impliqués essentiellement dans la signalisation, les interactions entre un neuromédiateur et son récepteur, la signalisation calcique, l'entrée et la sortie de calcium, les potentiations à long terme, c'est-à-dire l'apprentissage synaptique, le dosage des... J'ai cru qu'il y avait une alarme. Ah non, c'est le téléphone. Le dosage des métabolites montre que le GABA, le glutamate et l'aspartate ont un profil qui est attendu hein, pour ce genre de choses. Vous voyez ici, on voit qu'il y a une grosse différence entre 0 et 1 mois entre l'homme et le chimpanzé et le macaque pour les niveaux de glutamate, pour les niveaux d'aspartate et aussi, même que ce soit moins fort ici, mais c'est fort quand même, pour les niveaux de GABA qui sont des neuromédiateurs qui sont évidemment importants. Pour les quatre transcriptions de facteurs impliqués, il se trouve que MF2A régule les trois autres. Hein. Et dans le module, on trouve des gènes assez intéressants parce qu'on trouve des gènes comme gène ARC, NUR, je vais vous montrer ça ici, vous voyez, sont tous des gènes dont vous verrez plus tard, sont des gènes qui sont très très importants pour la régulation de la plasticité, de l'apprentissage synaptique au cours de ce que j'ai appelé les périodes critiques. Hein. Donc c'est assez frappant, c'est-à-dire que dans ce module, c'est un module qui touche au niveau de la synapse, il touche les éléments pré- et post-synaptiques, DLG4 et synapsine, ici, vous voyez. Il touche des facteurs de croissance, comme le BDNF. Il touche une protéine ici, qui est une phosphatase, qui a à voir avec l'activité calcium phosphatase, qui a à voir avec la calcinurine. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que ça touche ces quatre gènes. Et en fait, vous verrez, ces quatre gènes sont très fortement impliqués, ARC, EGR et NUR, WAN, sont très fortement impliqués dans la régulation au cours du développement de la plasticité corticale. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vous ai raconté que chez Sapiens plutôt, une grande partie de la plasticité, qui veut dire apprentissage, se fait de façon postnatale, et en particulier de l'apprentissage social qui a à voir avec le développement chez les humains. d'une théorie de l'esprit assez très forte, ce qui nous fait la distinction, vous rappelez les manips de comportement que je vous ai montré la dernière fois, la seule chose dans laquelle un humain est très tôt supérieur à tous les singes, c'est dans les comportements qui font appel à une théorie de l'esprit ou à une socialisation importante. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez frappant, je trouve, hein, qui est vraiment intéressant. Donc, si on s'intéresse aux synapses et à leur densité, hein, on se rend compte que la densité des synapses chez Sapiens, ça pique entre 3,5 et 10 ans. Donc, c'est maximal juste après la naissance chez les macaques. Hein. Je ne vais pas rentrer trop là non plus dans les détails, mais vous pouvez voir ici que c'est un travail ici qui a été fait par, chez Pascourakis avec mon ami Jean-Pierre Bourgeois, qui vient souvent en cours ici. Et vous voyez qu'on peut compter les synapses, et on peut comparer ce qui se passe entre un humain et un macaque. Et vous voyez que le nombre de synapses, qui augmente chez Sapiens et qui culmine vers entre 5 et 10 ans, est retardé par rapport à ce qui se passe chez un macaque. Là, c'est la même chose avec le chimpanzé et le macaque. Le chimpanzé, ça va être plus loin, parce que, comme je l'ai dit, c'est très difficile d'avoir des chimpanzés. Ils sont très protégés. Pour les humains, c'est plus simple. Donc voilà, on a des humains jusqu'au bout, jusqu'à 10 ans. On a pu les couper et regarder les synapses. Et vous voyez que vous avez un retard très fort de la maturation synaptique chez les humains. Donc ça se fait aussi très, très tardivement. Donc ça, c'est quelque chose qui est frappant. Ou je tourne mon truc en même temps, sinon on s'en sort pas. Enfin, moi, je m'en sors pas. Vous en sortez toujours. Donc ça, c'est plus facile. Donc ils ont regardé, vous voyez, les protéines de synapse. Et vous voyez, quand vous venez à un humain, vous voyez que ça démarre beaucoup plus tard que chez un chimpanzé ou même que chez un macaque. Vous voyez, si vous regardez les... Ici, on commence à voir, par exemple, la synapsine, on commence à la voir à un an vraiment fortement. Chez un chimpanzé, à la naissance, on les voit déjà. Et donc, ça veut dire qu'il y a effectivement un ralentissement très fort de la maturation du système nerveux chez Sapiens, en particulier, évidemment, dans les domaines qui sont les plus antérieurs et qui ont à voir avec les phénomènes cognitifs. On parle de ça pour l'instant. Donc, sur le plan morphologique, bon, les données, je l'ai dit, manquent chez le chimpanzé. Il y en a plus chez nous. Et donc, on peut se demander les raisons de ces ralentissements chez Sapiens. Donc, les gènes du module 1, pour en revenir au module 1, comme leur promoteur, donc il y a le gène, il y a le promoteur, qui permet la régulation de l'expression du gène, sont extrêmement conservés, avec très peu de polymorphisme nucléotique, ça s'appelle des SNPs. En revanche, si on regarde un gène comme F2A, hein, alors voilà, donc nous on s'est séparés, comme vous savez, des chimpanzés il y a environ 6 millions d'années, hein, donc là on va vers les chimpanzés, ça c'est les macaques, et puis on s'est séparés de néandertaliens il y a environ 600 000 ans, ce que je vous disais la dernière fois. Et ce qui est intéressant, c'est que les SNPs, donc les modifications de séquences qu'il y a en amont de MEF2A, qui a l'air d'être un gène extrêmement important dans cette affaire, ben, sont apparues après la séparation avec le néandertalien. Et ça, j'insiste un petit peu, parce que il y a toujours des défenseurs de Néandertal. Moi, je n'attaque pas Néandertal, je m'en fiche. Hein, de toute façon, il est mort, mais... Il y a toujours des gens qui disent « Ouais, Néandertal, il était aussi bon que Sapiens, il était aussi intelligent, mais on lui a fait du mal, parce que... » En fait, il est très probable que Néandertal était assez intermédiaire sur le plan intellectuel entre les chimpanzés et nous. Alors, je ne vais pas dire de mal des chimpanzés, mais vous savez ce que j'en pense. Il n'y a plus de secret pour vous, parce que j'en ai un petit peu assez de cet animalisme excessif. Ce n'est pas du tout la même chose que nous. Et donc, ce qui est rigolo, c'est que ce polymorphisme ici, qui est très fort et qui peut être lié, encore faut-il le démontrer, à le ralentissement de l'expression de MEF2A au cours des périodes critiques, est apparu après la séparation entre la lignée qui va vers Sapiens et la lignée qui va vers Néandertal. Donc, je vous l'avais promis, on va passer à un article plus ancien, on va revenir un tout petit peu en arrière. C'est un article du même groupe, hein, et c'est une aberration chronologique dans le cours, en l'occurrence, qui s'explique par le fait que je veux introduire ce qu'on appelle les micro-ARN. Hein. Vous vous rappelez ce que c'est que les micro-ARN ? Ce sont des petits ARN qui soit peuvent réguler la transcription de gènes cibles, mais ils peuvent aussi réguler la traduction des protéines en se fixant sur les régions 3' UTR, qui sont une région en 3' du messager qui n'est pas traduite, la région 3'. Mais si vous fixez votre micro-ARN sur cette région-là, vous allez entraîner soit la dégradation du messager, soit bloquer sa traduction. Donc ce sont des régulateurs, à la fois transcriptionnels et traductionnels, des gènes avec lesquels ils sont complémentaires. Ils sont des petits gars qui font environ 21 nucléotides et qui ont une importance extrêmement importante pour ce qui est de la régulation de l'expression génétique. Donc, on va regarder ce qui se passe dans le cortex préfrontal, mais aussi dans le cervelet, qui va nous servir de référence. Et c'est vrai que le cortex, évidemment, est très intéressant pour nous d'un point de vue en particulier de la pensée abstraite, de la prévision, de l'intelligence sociale, de la mémoire de travail. Le cervelet n'est néanmoins pas une structure totalement idiote. N'oubliez pas qu'il y a 60 milliards de neurones dans le cervelet, 20 milliards seulement dans le cortex. Et elle a un rôle très important dans les systèmes moteurs, cervelet, et donc aussi dans le langage, hein, puisque vous vous rappelez, et vous le verrez de nouveau, les questions motrices sont extrêmement importantes dans les capacités linguistiques, mécaniques, peut-être pas forcément uniquement mécaniques. Donc je reviens sur ce que je viens de vous expliquer, en rappelant que les gènes qui nous intéressent d'abord hein, ont une expression variable au cours du développement, mais différentielle entre les espèces. Ces gènes sont définis donc comme des gènes de type 3. Hein. Ce que j'appelle les gènes de type 3, c'est ces gènes-là qui sont en mauve ici. Et les profils types hein, d'expression de ces gènes sont présentés ici. Donc, vous voyez ici, c'est les différences macaques-hominides. Donc les hominides, ils sont là. Le macaque, vous voyez, très très loin des hominides. Et ça, c'est les différences entre hommes et chimpanzés. Et vous voyez qu'il y a une différence, mais qui est moins forte, évidemment, entre l'homme et le chimpanzé qu'entre l'homme et le macaque, et même qu'entre le macaque et le chimpanzé. Hein. Donc, plus c'est foncé et plus l'âge est élevé. Ici, vous êtes dans le cortex préfrontal. Ici, vous êtes dans le cervelet. Et la différence au niveau du cervelet, est, en tout cas pour ce qui est de l'homme et du chimpanzé, est un peu plus difficile à voir que pour ce qui est du cortex préfrontal. Et si on prend le macaque, alors voilà, le type 1, on s'en fiche un peu, le type 2, on s'en fiche un peu, le type 3, il nous intéresse parce que dans le type 3, de nouveau, c'est l'expression néoténique. Vous voyez qu'on a un retard hein, dans l'expression des gènes humains, ce qui n'est pas le cas pour ceux de type 2. Hein, par exemple, un gène qui code pour une gamme kinase, vous voyez que là, les humains et les chimpanzés sont pareils. C'est le macaque qui a évolué là, hein. Donc ça c'est pas mal, parce que c'est assez égalitaire notre affaire, hein. On n'est pas, voilà. Bon, mais si vous prenez le macaque comme extérieur, hein, et que vous regardez les gènes de type 2 et les gènes de type 3, vous voyez que tout de suite, en prenant un groupe extérieur comme le macaque, on a une très grande différence entre les humains et les chimpanzés pour ce qui est des gènes de type 3, mais pas forcément des gènes de type 2. Donc c'est là que ça se passe, c'est dans cette néoténie que la chose devient importante. Alors si on regarde avec des programmes de ce qu'on appelle Gene Ontology ou Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes, KEG, pour voir quelles sont les catégories de gènes qui sont co-régulées et qui sont enrichies, on se rend compte que dans le cortex préfrontal, c'est de nouveau des gènes, ce que je disais, des gènes neuronaux, récepteurs ligands, comportements, etc. Donc, quand on veut voir, quand on pense à des différences d'expression comme ça, il y a une possibilité, c'est d'une divergence qu'on appelle une divergence en 6, c'est-à-dire sur le chromosome où il y a ce gène, et en général assez proche de ce chromosome, au niveau des promoteurs en particulier, on peut imaginer qu'il y a plein de mutations dans ces promoteurs qui font que ces gènes vont s'exprimer différemment entre les espèces. En fait, ce n'est pas du tout ce qui se passe. En fait, ce qui se passe, ce sont plutôt des modifications en trans. C'est-à-dire que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un facteur de transcription ou un micro-ARN dont l'expression va être modifiée. Et ce facteur de transcription ou ce micro-ARN, il va aller réguler globalement tous les gènes de cette catégorie, ou presque tous les gènes de cette catégorie. Et donc, c'est beaucoup plus économique sur le plan génétique. S'il fallait modifier séparément tous les promoteurs de tous les gènes qui sont néoténiques, par exemple, ça fait beaucoup de mutations, on ne s'en sortirait pas avec les 1,23%, bien entendu. Mais si, avec une seule mutation sur un régulateur, genre facteur de transcription ou micro-ARN, ou niveau d'expression de ce micro-ARN ou de ce facteur de transcription, on peut toucher énormément de cibles parce qu'ils ont les mêmes sites de fixation pour ces régulateurs, alors, avec une petite différence, on peut avoir des effets massifs. Et c'est effectivement ce qui se passe, c'est-à-dire que si on regarde le profil de plusieurs facteurs de transcription, là, ils ont regardé 105 facteurs de transcription, ils ont regardé 200 micro-ARN dans le cortex préfrontal et dans le cervelet des trois espèces, de nouveau, vous pouvez voir que les différences sont très fortes chez les humains, hein, par rapport à... Donc, il y a une grande évolution chez l'homme. Et puis, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il ne s'est rien passé au niveau des séquences 6, mais vous avez une forte régulation en trans. Hein. Donc, ça, c'est intéressant parce que plus le micro-ARN est exprimé, et moins la protéine, moins le gène cible est exprimé. C'est donc, on a en fait des corrélations inverses entre, vous voyez ici, le niveau d'expression et en fait ce qu'on pourrait s'attendre à ce qu'il est si c'était stochastique. Donc je vais vous montrer ça un petit peu plus précisément, ou plutôt plus simplement en fait, voilà ici, c'est tout bête. On prend simplement 3 micro-ARN, hein, et on voit que plus le micro-ARN est exprimé, hein, ici, très fortement exprimé chez l'homme, très fortement exprimé chez l'homme, très fortement exprimé chez l'homme, et moins le gène lui est exprimé. Hein. Donc, et ça, c'est un seul micro-ARN, 320, et vous avez 18 cibles. Hein, donc avec un seul gars, vous allez contrôler 18. Donc ça, c'est pas mal. Donc ça veut dire qu'une régulation de l'expression de ce petit micro-ARN va avoir des effets en cascade extraordinairement forts. Pareil pour MIR-454, qui lui a 26 cibles, ou MIR-92, qui lui a 25 cibles. Vous voyez, déjà avec 3 gars, vous allez pouvoir contrôler 18 plus 26 plus 25, 79. Non, je ne sais pas. 51, 69, voilà. Donc ça, c'est pour vous dire que de nouveau, c'est-à-dire que ça veut dire qu'il faut faire très attention quand on dit 1,23% de différence. De nouveau, ça vous montre que ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est qui est touché et quel est l'effet amplificateur en aval de ces mutations. Donc, si je voulais. Alors, si vous regardez l'expression de certains de ces micro-ARN, hein, voilà, ici par exemple, MIR, je sais pas, j'arrive pas à voir d'ici parce que je ne vois pas très clair. Hein. Mais vous voyez, ce micro-ARN, c'est 320B, ou je ne sais pas, oui, 320B, chez l'humain ou chez le macaque, vous voyez qu'ils sont très fortement exprimés dans les neurones du cortex préfrontal de ces deux animaux, macaque et sapiens. Et ça, ça veut dire qu'une modification de l'expression de ces micro-ARN dans les deux espèces va avoir un rôle très important dans l'expression de gènes cibles à l'intérieur de ces neurones du cortex préfrontal. Donc, si je voulais résumer à ce stade, je dirais que près de 90% des gènes avec une expression divergente n'ont pas de spécificité tissulaire, donc il n'y a pas de changement entre le cortex préfrontal et le cervelet, et ont évolué à partir de mutations en 6. Mais les gènes de type 3 qui nous intéressent, le plus ont des expressions divergentes et cette expression divergente est essentiellement neuronale. Donc la régulation, on peut le penser, et je crois que c'est relativement clair d'après les articles que j'ai pu lire sur cette question, se font en trans, c'est-à-dire pas directement en amont du gène, mais avec une sorte d'arrosage comme ça d'un truc qui vient aller réguler tout le monde. C'est-à-dire qu'une molécule peut en contrôler une vingtaine. Hein, en gros, un truc comme ça. Donc, pour finir de toute façon cette discussion et pour reprendre le fil du cours, là, c'est un petit peu la fin de ce que je voulais vous dire la semaine dernière, mais bon, à la fin d'un cours, c'est toujours un tout petit peu chaotique, surtout pour moi, parce que je fatigue et je pense que je m'explique moins bien. Peut-être que c'est pas mieux le lendemain, mais bon, c'est pas grave. Là, c'est vous. C'est votre faute, là. C'est peut-être la mienne. Donc, voilà. Donc là, je vais me servir d'une revue qui est toujours de la même équipe, qui est une revue qui est sortie en 2014 et qui va me permettre de faire un résumé assez rapide, pas trop rapide, hein, des points les plus forts. Donc, les auteurs rappellent le point essentiel que la grande supériorité de Sapiens, ce n'est pas la tâche d'intelligence physique, hein, vous en souvenez, mais c'est des tâches d'intelligence sociale. C'est tous les aspects qu'on peut donner à l'intelligence sociale, apprentissage, langage, coopération, etc. Donc la question qu'on doit poser, c'est celle des corrélats anatomiques et génétiques de traits qui nous apparaissent comme des traits spécifiquement humains. Donc au départ, nous avons 3 fois plus de neurones. Hein, 3 fois plus de neurones que les chimpanzés. Nous avons une densité des corps cellulaires neuronaux qui est plus faible. C'est-à-dire que par millimètre cube, nous avons moins de neurones que les chimpanzés. Mais ça veut dire, si vous voulez, que l'espace entre les neurones est plus grand et ce n'est pas du vide. Hein, l'espace entre les neurones, c'est des dendrites, des axones, des épines dendritiques. Donc ça veut dire que vous avez une énorme augmentation de la connectivité. Donc, non seulement vous n'avez plus de neurones, mais vous avez beaucoup plus de connectivité dans le système. Et donc ces nouvelles connexions qui se développent plus lentement, en particulier dans les régions les plus antérieures du cortex cérébral. Donc un temps développemental du cerveau qui est fort allongé, très allongé. Hein. Donc ce sont des changements qu'on doit mettre en rapport, bien entendu, et c'est toute la question hein, que j'essaie de traiter depuis 2 ans, avec certaines difficultés, mais toute la question de la conservation des génomes. Hein. Donc par exemple, vous comptez en moyenne, c'est très très peu, 2 acides aminés de différence par gène orthologue. C'est-à-dire que si vous avez 2 protéines chez un sapiens, une protéine chez un sapiens et un chimpanzé, en moyenne, sur cette protéine, vous avez 2 différences d'acides aminés. Ce qui est effectivement faible, d'autant plus que les changements sont souvent neutres. Hein. Vous vous rappelez ce qu'on appelle un changement neutre, c'est-à-dire que si vous avez un acide aminé acide, aspartate, qui est transformé en glutamate, on s'en fiche. Ou lysine en arginine, on s'en fiche aussi. Ou tryptophane en tyrosine, donc hydrophobe. Donc ces changements sont très souvent neutres. C'est que fondamentalement, il n'y a pas une grande différence au niveau des structures protéines entre nous et nos cousins. Ce sont quand même des cousins. Et il y a très peu de nouvelles protéines. C'est-à-dire que l'invention de nouvelles protéines avec l'évolution, c'est quelque chose d'extraordinairement rare. Ça arrive, hein, mais c'est rare. Donc, dans cette diapositive-là, je vous donne un tout petit peu un état des différences. Hein. Donc, on a un volume de cerveau qui est à peu près 3 fois plus grand, hein, avec 3 fois plus de neurones et une plus grande encéphalisation. C'est-à-dire que le rapport cerveau-corps est plus important. Vous vous rappelez qu'on a 40 kg de poids sec, comme un chimpanzé de base, mais on a un cerveau qui est à peu près 3 fois plus grand. Il y a une plus grande proportion de néocortex, hein, en particulier les aires préfrontales et temporales sont énormément augmentées. Aussi le cervelet, hein, n'oubliez pas que le cervelet n'est pas un idiot. Voilà. Temporal, ça doit vous dire quelque chose du côté du langage. Hein, ça, c'est important. Vous avez en plus de connexions à l'intérieur du cortex préfrontal. Vous avez plus de gyrification, c'est-à-dire que nous sommes plus gyrencéphales qu'un singe. Les singes ont des circonvolutions, hein, quand même pas, surtout les chimpanzés, c'est pas. On en a un petit peu plus, bon, surtout au niveau du cortex préfrontal. Évidemment, il y a plus de matière blanche dans le cortex temporal. Et puis, bon, les aires de Broca avec une symétrie droite-gauche qui est augmentée. Donc toutes ces choses-là qui sont évidemment, ça va de soi. Alors, ce niveau des types cellulaires, on a un plus grand ratio de glies à neurones. Vous les souvent dit, on a plus de glies qu'un chimpanzé. Les glies, c'est les astrocytes, c'est les oligodendrocytes, c'est les macrophages. Pour les oligodendrocytes, c'est parce qu'on a plus de myéline. Pour les astrocytes, c'est parce que, vous allez voir, ce sont des cellules qui non seulement sont importantes pour le métabolisme, et je ne reviendrai pas là-dessus cette année parce que je vous ai embêté pendant des années avec le métabolisme, mais c'est aussi des cellules qui sont très intelligentes dans la transmission synaptique. Donc, vous avez aussi, évidemment, plus de ces grands neurones spindle qu'on peut revoir un petit peu plus bas, qui sont en fait des neurones de type von Economo dont je vous ai parlé la semaine dernière. Et vous avez beaucoup plus d'espace entre les neurones. Et l'espace entre les neurones, comme je vous disais, c'est du neuropile. Hein. C'est pas du creux, c'est pas du vide. Donc ça veut dire beaucoup plus de densité, de connectivité, etc. Ça s'augmente avec l'adolescence. Au moment de l'adolescence, que tout ça se développe et que toutes les connexions se font. Donc se font relativement tardivement. Plus de connectivité dans les aires de Broca. Bon, je ne vais pas vous détailler tout, vous voyez ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est au niveau du développement et du vieillissement, hein, malheureusement. Mais vous avez un cerveau qui se développe plus vite et plus longtemps. Hein, on démarre plus tôt, à la 16e semaine de gestation, mais ça continue dans l'enfance et dans l'adolescence même. Hein. Je l'ai dit, la myélinisation dans le cerveau humain, c'est jusqu'à l'âge de 30 ans. Hein, c'est quand même quelque chose d'assez fabuleux. Vous avez donc ce postnatal development, vous avez une durée de la myélinisation qui est extrême hein, dans le cortex, vous avez une diminution, un pic de synapse qui est tardif, hein, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis, vous avez aussi une dégénérescence qui est relativement précoce. Hein, vous allez voir, ce n'est pas drôle. Et vous avez un rétrécissement, un shrinkage du cerveau chez les vieux, qui est plus que chez les chimpanzés. Hein. On va y revenir. On va y revenir. On n'est pas là pour se faire plaisir. Hein. On est aussi là pour se faire mal. Hein. Sinon, vous ne seriez pas aussi nombreux. Voilà. Donc, et puis, il y a une activité métabolique qui est très forte. Et ça, ça a à voir avec les astrocytes. Mais je n'ai rien à dire, hein, parce que je suis en avance sur vous, sur beaucoup d'entre vous, de toute façon. Donc, voilà. Donc, ça, c'est en gros, c'était le circuit. Ces différences entre humains et chimpanzés, elles ont été démontrées, évidemment, dans énormément de travaux. Donc, il y a des gens qui ne veulent pas lire, hein, parce que ça les gêne, mais c'est la réalité scientifique. Il y a d'énormes différences entre nous. Alors, évidemment, c'est difficile parfois, parce que quand vous comparez des tissus humains et des tissus animaux, il y a des questions d'âge, de correspondance des âges, on en a parlé, mais aussi des questions de conservation des tissus, hein, et des homologies de structure entre les primates. La conservation des tissus, c'est vrai, c'est très difficile, c'est pas Jean-Pierre qui me dira le contraire, d'avoir du tissu de chimpanzé, c'est un truc qui est vraiment compliqué à avoir. Ils sont très protégés, à juste titre, et donc voilà. Quoi. D'où les controverses. Parce qu'on trouve toujours un truc où on dit « Ah, c'est pas vrai !» donc ça, c'est... L'ignorance est toujours à la base, à l'origine de controverses, comme vous pouvez l'imaginer. Mais il y a des différences de transcriptome dans le cortex préfrontal humain qu'on peut ne pas voir dans d'autres régions. Et ça, c'est montre que ça ne peut pas être artefactuel, parce que si on les voit dans une région et pas dans les autres, ça a probablement un sens physiologique, génétique et physiologique important. Et c'est évidemment, je le répète, surtout au cours du développement et dans le cortex préfrontal, que ces différences sont les plus importantes. Donc, on peut supposer que nous, en tant que sapiens, nous avons bénéficié, ben, si c'est un bien, ça c'est une autre affaire, de changements essentiellement développementaux. Donc ça, vous le voyez ici dans cette diapositive, c'est ce que je veux dire ici, c'est-à-dire que voilà, vous avez un remodelage du développement et les chimpanzés sont restés tout à fait du côté des macaques. Là, ce que vous voyez, c'est quand vous regardez, par exemple, la fréquence du transcriptome, donc vous voyez ici, les protéines, les séquences protéines, ce que je disais, c'est quand même assez conservé. Les séquences régulatrices sont assez conservées, mais les fonctions qui sont spécifiquement neuronales sont enrichies. Et puis, vous avez des expressions qui sont spécifiques, des régions spécifiques du cerveau. Et puis, surtout, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que la régulation... pour les gènes de cette catégorie, elle se fait surtout en trans. Et là, c'est une illustration assez simple que je disais. Par exemple, si vous avez trois gènes ABC qui sont exprimés différemment, ça peut être lié à des mutations qui ont lieu dans leur promoteur, mais des mutations différentes. Mais ici, ce que vous voyez, c'est que vous n'avez pas de mutations dans les promoteurs. Ces trois gènes ont les mêmes promoteurs, mais en trans, vous avez un facteur de transcription qui va se fixer sur les trois gènes, mais c'est lui qui va être modifié dans son expression et dans sa structure. Donc vous avez un effet d'amplification d'une mutation à trois niveaux, mais en fait à plus que trois niveaux. Vous avez vu tout à l'heure, c'était 18, c'était 25, c'était 40, je sais plus, j'étais jusqu'à 69 en ajoutant les trois, et j'ai oublié depuis, voilà. Donc, on constate donc des trajectoires d'expression au cours du développement, en particulier dans le cortex préfrontal, avec des cinétiques qui sont très différentes entre les espèces. Donc, c'est le concept d'hétérochronie sur lequel je ne reviens pas. Alors, les changements en termes de temps développemental ne sont pas corrélés, je vous l'ai dit, à une modification de séquence du gène ou de son promoteur. Ça, c'est un peu inattendu, mais bon, c'est ça. Mais ce sont plutôt les facteurs de transcription et les micro-ARN qui expliquent les changements dans l'expression des cibles. Donc, en fait, ça s'est passé au vert, c'était pas au rouge tout à l'heure ? Ah non, c'était vert. Non mais oui, hein. Pourtant je ne suis pas daltonien. Donc ça c'est un point qui est essentiel. Donc là on vient de faire un petit passage par la génétique et je vais prendre rapidement, en résumant, le fil de l'analyse faite en 2016. Donc, j'avais dit, le cours cette année va être un tout petit peu hybride pour vous rappeler un petit peu les choses de l'année dernière, pour mettre en relief ce que j'ai fait de nouveau cette année. Donc, notre dernier ancêtre commun avec les chimpanzés, on va l'appeler le LCA, Last Common Ancestor, qu'on partageait avec les bonobos et les chimpanzés, nous pose évidemment la question des relations que nous entretenons, qu'entretiennent hein, les trois espèces. Hein. Donc, si je reviens sur l'arbre généalogique supposé, hein, que vous avez ici, voilà. Là, je vais la remontrer parce que je vais en parler un peu de ce sapiens, mais si je reviens sur cet arbre généalogique, vous voyez qu'il est là, hein, l'ancêtre commun, avec ensuite on part vers Pan, ici on part vers les hominidés. Et donc ce qu'il faut voir tout de suite, et ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est qu'il y a eu une séparation entre Troglodytes et Bonobo, hein, entre Paniscus et Troglodytes. Mais cette séparation, elle s'est faite après que les Paninés se soient séparés de nous. D'accord ? Donc, si on voit des points communs entre Troglodytes et Sapiens ou entre Paniscus et Sapiens, ça ne vient pas de l'ancêtre commun, ce sont des modifications qui sont produites de façon indépendante ici et ici. C'est ce qu'on appelle de la convergence évolutive. Hein, donc, et ça, c'est important parce qu'on se pose forcément la question de savoir ce qu'il y a de commun entre nous et les chimpanzés et entre nous et les bonobos. Hein, donc, et vous allez voir, par certains aspects, on est plutôt chimpanzé, et par d'autres, on est plutôt bonobo. Et ça, c'est lié à des convergences évolutives, à des mutations, et pas forcément les mêmes mécanismes. Ça, on voit ça au niveau du comportement, mais ce n'est pas forcément par les mêmes mécanismes. Donc, il y a eu des séquençages de génome. Donc, on a séquencé le génome d'un bonobo. En fait, c'était une guenon, elle s'appelait Lundi. Elle a été séquencée en 2012 à Leipzig. Et ce qu'on a vu, c'est que les génomes de ces deux espèces, là, les Troglodytes et les Paniscus, diffèrent de seulement de 0,4%. C'est pas mal, hein, parce qu'entre nous et les chimpanzés, c'est 1,23. Donc, ce sont vraiment deux espèces très, très différentes. 0,4, c'est pas négligeable. Et ça, c'est, je vous l'avais raconté l'année dernière, le problème du fleuve Congo qui est apparu et qui a séparé au nord et à l'est les chimpanzés et au sud les bonobos. Et donc il y a eu de la spéciation qui s'est produite à partir de l'ancêtre commun entre les deux, une spéciation qui est liée à la séparation sur le plan géographique des deux espèces. C'est un peu comme les pinsons de Darwin, hein, si vous vous souvenez. Donc bon, nous on a 1,23% de différence avec les chimpanzés et avec les bonobos, et il semble qu'on est quand même un peu plus près des bonobos pour certains traits, hein, en particulier le comportement sexuel, très clairement, et on est plus près des chimpanzés pour d'autres comportements, peut-être l'agressivité, d'une certaine façon. Le sapien, c'est pas... Bon, on dit qu'il n'est pas très agressif, mais bon, il faut voir l'état de la planète, donc il faut réfléchir à ça. Alors, pour ce qui est des chimpanzés et des bonobos, il y a des caractéristiques morphologiques néoténiques et des bonobos, donc là, on vient de voir l'importance hein, des extrêmes de ces variations dans la vitesse de développement de certains organes, avec une absence de synchronie, y compris au sein du cerveau. Toutes les régions du cerveau ne se développent pas à la même vitesse. Les phases critiques et les périodes critiques ne sont pas synchrones, bien entendu. Donc, et ça démontre qu'on diffère fortement, les bonobos diffèrent assez fortement des chimpanzés, donc possiblement, évidemment, du Last Common Ancestor, qui serait plus proche des chimpanzés. Donc là, c'est très spéculatif, hein, mais on pense que ce type-là, celui qui était là, qui a disparu. C'est le problème aussi de toutes ces questions, c'est qu'on n'a pas toujours les fossiles qui correspondent à ce qu'on regarde. Donc cet ancêtre qui a disparu, on pense qu'il était plutôt plus près des troglodytes que des paniscus. Ce sont des hypothèses. Mais c'est raisonnable si on prend l'orang-outan hein, comme groupe externe, hein, ici. Voilà. Bon, si on accepte l'idée que l'ancêtre commun était plus proche des chimpanzés que des bonobos, qui aurait alors plus de caractères dérivés, c'est-à-dire que si une espèce évolue plus vite, on dit qu'elle a plus de caractères dérivés, on peut proposer toujours que la diminution de l'agressivité et le développement d'une attitude plus coopérative était mise en œuvre à la fois chez les bonobos et probablement chez les humains. mais alors nécessairement de façon indépendante, hein, et peut-être via des mécanismes différents, puisque nous nous sommes séparés d'eux avant qu'eux ne se séparent. Donc ça veut dire que si nous avons des traits communs sur le plan de la socialité, de la gentillesse, etc., avec Paniscus, ce n'est pas quelque chose qui était là, c'est quelque chose qui s'est développé ici et ici de façon indépendante. D'accord ? Donc, l'autre hypothèse, c'est que ce soit l'agressivité des chimpanzés qui se soit développée pour elle-même et que celui-là, c'était un gentil comme nous et comme les bonobos, vous voyez ce que je veux dire ? Mais que là, tout d'un coup, celui-là est devenu méchant. Donc ça, c'est l'autre hypothèse possible. Ça ne colle pas entièrement, si vous voulez, avec l'agressivité des autres primates anthropoïdes, qui, comme les gorilles, qui ne sont pas en dépit des gens qui aiment les gorilles et qui vont chercher des gorilles, tombent amoureux des gorilles, il y a des cas. Mais bon, ce n'est quand même pas des types très très sympas, malgré tout. Enfin bon, vous faites ce que vous voudrez. Hein. Donc, si on accepte la thèse actuelle selon laquelle les chimpanzés sont plus proches de l'ancêtre commun, donc il faut postuler qu'une évolution dans le sens d'une moindre agressivité et d'une plus grande tolérance a marqué l'évolution à la fois des bonobos et des hominidés, mais c'est de la convergence évolutive, c'est fait séparément, et peut-être via, je disais, des mécanismes différents. Alors, chez les chimpanzés sauvages, hein, les agressions à l'intérieur d'un groupe sont terribles, sont extrêmement violentes, et elles concernent les deux sexes. Hein. Et quand c'est entre deux groupes de chimpanzés différents, c'est mortel. Hein, c'est-à-dire qu'ils ne se font pas de cadeaux. Hein. Par exemple, si vous avez plusieurs chimpanzés qui collaborent pour la chasse, ça peut arriver, le premier qui récupère la nourriture, ne la partage pas, il la mange, et s'il la partage, parce qu'il est obligé par la contrainte, les autres lui tombent dessus jusqu'à ce qu'il lâche un petit peu de truc. Voilà, donc ça, c'est pas... Alors que c'est un individualisme qui est extrêmement fort. Et ça va à l'encontre, si vous voulez, d'un apprentissage social, et donc d'un développement d'un appareil cognitif qui est lié aux interactions sociales. Hein. Rappelez-vous ce que je vous ai raconté la semaine dernière. Les bonobos, en revanche, sont beaucoup plus sociaux. Ils partagent facilement la nourriture avec leurs congénères. Alors ça, c'est parce qu'évidemment, ils vivaient dans un milieu qui était beaucoup plus riche. Il y a moins de compétition pour la nourriture au sud du fleuve Congo qu'au nord du fleuve Congo. Et on a souvent parlé, dans ce cas, d'un processus d'auto-domestication, qui proviendrait d'une sélection soit naturelle, soit artificielle, contre l'agressivité, avec donc des changements dans les cinétiques de développement, et la physiologie, donc les axes hypothalamiques, hypophyse, glandes surrénales, etc. Plus le niveau d'androgène, plus les systèmes sérotoninergiques. Et donc, il y a une vraie différence à ce niveau-là entre les chimpanzés et les bonobos. Alors, pour un auteur comme MacLean, la moindre compétition pour la nourriture qu'on trouve au sud du Congo, et donc le partage, hein, la cueillette à plusieurs, on y va ensemble, on va cueillir les plantes et les bananes et les machins tranquilles entre copines. Toutes les femelles font ça ensemble parce qu'elles collaborent. Et quand il y a un mâle qui arrive et qui veut être méchant, elles peuvent lui flanquer une rouste, c'est-à-dire qu'elles peuvent se défendre. Et donc, ça apprend au mâle à se comporter de façon sympa. Voilà. Donc, elles résistent collectivement à la coercition des mâles. Donc c'est ce que dit MacLean, et ça aurait pu jouer un rôle. A contrario, quand la femelle chimpanzée part toute seule parce qu'elle veut toute la bouffe pour elle, si elle tombe sur une bande de mâles, elle passe un mauvais quart d'heure. Voilà. Donc ça, c'est storytelling de MacLean, mais bon, ça fait partie du storytelling. Bon, c'est pas forcément absurde, et lui, effectivement, il relie ça aux conditions écologiques très différentes entre le sud du fleuve Congo et le nord et l'est du fleuve Congo, à cause des conditions écologiques très différentes sur le plan de l'abondance de nourriture. Évidemment, s'il n'y a pas de pression de sélection, il n'y a pas de raison de se battre pour la nourriture. Voilà. Donc, ça a pu favoriser chez les bonobos la sélection de mâles moins enclins à l'agression et donc un phénotype qu'on appelle un phénotype d'auto-domestication. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vous avais dit ça l'année dernière, on peut se poser la question de ce qui s'est passé chez Sapiens, de ce point de vue. Le concept d'auto-domestication renvoie clairement à Darwin, qui propose lui-même dans la Descent of Man que l'homme, par bien des aspects, peut être comparé à des animaux qui ont été domestiqués de longue date. Alors, l'auto-domestication est à la fois culturelle et génétique. Elle permet de poser un regard assez ironique, je dirais, sur ceux qui prétendent réintroduire des loups et des ours dans la nature. Parce que si on veut suivre la même logique, il faudrait y réintroduire des humains non dénaturés. Je veux dire, pas comme nous, des vrais hommes, quoi. On peut espérer qu'on sera longtemps préservé de ces imbécilités auxquelles nous conduisent les idéologies naturalistes. Donc, pour ne pas parler des religions de la nature. Je close ce commentaire, qui va apparaître sur Internet, en vous recommandant de venir justement au prochain colloque de rentrée, qui a lieu la semaine prochaine, où vous pourrez assister à la confrontation des points de vue là-dessus, à des discussions animées sur un thème qui est éminemment politique, en fait. Et je pense que ce sera 3 journées, et en particulier le débat du mercredi soir va être assez intéressant de ce point de vue. Parce que, bon, on a invité des gens des deux bords. Et même au collège, il y a des gens qui ne portent pas tout à fait la même chose sur ce thème. Donc, ça va être assez amusant. Donc, je reviens à mon histoire. Et je vais vous rappeler un petit peu des choses que j'avais dites l'année dernière concernant un trait majeur de notre espèce, qui est la réduction du dimorphisme sexuel. La diminution de la compétition intermâle, la diminution de la polygynie, donc plus de monogamie et surtout un élevage coopératif des petits. Et ça, c'est toujours ça, cet élevage coopératif des petits qui ouvre sur une organisation sociale qui est propice aux échanges et aux coopérations qui est caractéristique de notre espèce. Ça, vraiment. Donc cette activité sociale fournit aussi aux petits un milieu social au sein duquel, pendant cette période critique postnatale, ils emmagasinent dans leur structure cérébrale, parce que c'est vraiment une modification physique du cerveau, les règles de vie communes, et se construisent rapidement, nous l'avons vu la semaine dernière, ce qu'on appelle une théorie de l'esprit. Donc ça, c'est absolument fondamental. Donc cette modification très importante des systèmes sociaux, cette domestication qui s'accompagne d'une modification donc cérébrale d'une certaine façon, aurait pu commencer il y a environ 3 millions d'années, c'est ce qu'on pense. 3 millions d'années, c'est après évidemment la séparation avec les chimpanzés. Ici, on se sépare vers 6-7 millions, on ne sait pas très bien si c'est là. 3 millions d'années, on est là. Et puis, ça se serait accéléré récemment avec Sapiens, c'est-à-dire il y a environ 300 000 ans, aux dernières nouvelles. Peut-être un peu plus vieux encore que ça. Ça, on le saura plus tard. Donc, ce sont des changements récents qui concernent la morphologie du crâne et de la face. Ils sont contemporains, très probablement. Nous le verrons un peu plus loin quand je vous parlerai de la différence de méthylation de l'ADN entre Sapiens, les chimpanzés et les néandertaliens. Et vous verrez que, de nouveau, je vais être méchant avec le néandertal, du développement de nos capacités linguistiques en parallèle avec une deuxième phase de perte d'agressivité qui caractérise le comportement moderne de notre espèce, même si ça ne saute pas aux yeux. Donc, cette perte d'agressivité, elle est marquée par une féminisation très importante du crâne humain, des mâles en particulier, évidemment, depuis le Pléistocène moyen, c'est-à-dire depuis 780 000 à 125 000 ans. Donc, très très récent, bien entendu. En relation avec une moindre activité des androgènes, en particulier une baisse des niveaux de testostérone, ou encore une diminution de la réponse à la testostérone dans certains organes, par perte locale des récepteurs à la testostérone. Donc je vais raconter, donc je ne vais que le citer ici, à quel point cette diminution d'hormones sexuelles mâles, ou de la réponse ciblée à l'hormone sexuelle, peut avoir des conséquences sur le plan cognitif, y compris du côté de la théorie de l'esprit. Hein, je vous avais raconté comment le groupe de Baron Cohen avait suggéré que la baisse d'autorité d'esprit chez les enfants autistiques, disent-ils, est la conséquence d'une masculinisation générale, cérébrale excessive qui induisait un biais pathologique en faveur d'un esprit de système surdéveloppé, mais une perte des processus empathiques à travers une baisse d'autorité d'esprit. Voilà. Pour Baron Cohen et ses collègues, un cerveau anormalement masculinisé serait à l'origine des troubles autistiques. Donc, c'est une hypothèse qui, de nouveau, selon MacLean, le garçon dont je vous parlais tout à l'heure, pourrait rendre compte des différences entre espèces concernant l'évolution de la cognition sociale. Alors, les bonobos, qui présentent des niveaux plus faibles d'androgènes en postnatal que les chimpanzés, surpassent les chimpanzés dans les tâches de théorie de l'esprit et dans les tâches de coopération sociale. Ils regardent les yeux, ils regardent les visages, plus souvent quand on leur montre des images sociales. Ils partagent plus volontiers la nourriture, en même temps qu'ils participent plus souvent à des jeux de société. Vous voyez de quoi je veux dire. Au contraire, les chimpanzés sont meilleurs pour l'utilisation des outils, hein, le raisonnement causal et la mémoire spatiale. Ils sont aussi plus agressifs, comme je viens de vous le dire. On peut imaginer que des aspects essentiels des motivations sociales humaines, tolérance, instinct grégaire, ont évolué en parallèle et à la suite de processus similaires à ceux que nous venons de suggérer, tout d'androgène, etc., etc. Donc, par quel mécanisme avons-nous pu diminuer les effets négatifs sur le plan social et cognitif, cognitif, quoi, d'un excès d'agressivité lié à une action trop forte, en tout cas trop large, à testostérone? C'est une question qui va me permettre de revenir rapidement sur un point du cours de 2016, dont j'aurai besoin plus tard pour introduire des éléments nouveaux. Il s'agit de la question des condelles, hein, ou plutôt des human condelles, c'est-à-dire de séquences qui sont très conservées, CON, comme conservées au cours de l'évolution, mais qui sont délétées, DEL, chez nous. Human, conservé, délété. Et je vous en ai parlé l'année dernière, donc je n'ai pas insisté beaucoup, mais vous voyez, ce sont des séquences qui sont présentes chez toutes les espèces, mais qui sont délétées chez nous. Et ça, il y en a pas mal, en fait. Alors, comme elles sont très conservées, ça veut dire qu'elles sont très importantes. En général, ce qui est très conservé est très important. Si elles sont délétées, c'est lié, et c'est pour ça que je reparle aujourd'hui, c'est lié, si vous voulez, probablement à des activités de type transposon. Donc, on va y revenir plus tard dans le cours. Donc, dans l'article de Kingsley de 2011, donc on peut voir ici que j'ai extrait la partie qui concerne la testostérone, puisqu'on parlait de ça. Donc il y a 510 condelles humains, donc délétées spécifiquement chez l'homme, mais présentes chez les chimpanzés, par exemple, mais aussi chez les macaques, mais aussi chez les souris. Hein. Et ces régions délétées sont presque toutes, sauf une, dans des régions régulatrices, jamais dans des régions codantes, toujours dans des régions régulatrices, soit dans des introns, soit dans des régions intergéniques. Hein. C'est important que ce soit des régions non codantes. Ce ne sont pas des mutations ponctuelles, mais des délétions. Et comme je disais, ça pose la question du mécanisme de délétion, comme le mécanisme des duplications, qui sont les grosses différences entre les espèces. C'est-à-dire essentiellement aux délétions et aux duplications de gènes. Pour 5 à 6% des différences entre l'homme et le chimpanzé sont liées à des mécanismes de duplication et de délétion génétique assez massives. Et ça a à voir, je vous le disais tout à l'heure, et j'y reviendrai, aux éléments mobiles, au rôle des éléments mobiles dans l'évolution, ce qu'on appelle les transposons, qui ont une importance formidable. Il faut savoir que 45% de notre génome est composé de séquences de type transposon. Bon, ils ne sont plus actifs, il n'y a plus que 80 qui sautent encore chez nous, c'est-à-dire des morceaux d'ADN qui se déplacent d'un endroit à un autre, et encore, sur ces 80, il n'y en a qu'une dizaine qui sont vraiment chauds, qui sautent beaucoup, les autres sont un peu fatigués, mais ils peuvent le faire, voilà. Mais il reste que ça vous démontre que l'évolution des génomes est liée énormément à cette en fait instabilité génétique qui est liée à la mobilisation de ces éléments. Donc parmi ces 510 régions, et ça c'est aussi encore un truc qui est, j'avais pas réfléchi à ça l'année dernière, mais parmi ces 510 régions, il y en a 88% qui sont aussi perdus chez les Néandertaliens. Comme nous. Mais ça veut dire quand même qu'il y en a 12% qui sont présentes chez les Néandertaliens et chez les chimpanzés. 12%, ça fait quand même 61 condelles que nous avons perdu et que les Néandertaliens ont gardé, comme les chimpanzés. Et là, de nouveau, ça vous montre qu'il y a une forte différence quand même entre nous et Néandertal. 61 condèles, un condèle, c'est une moyenne, disons, de 2800 paires de base. Donc, vous voyez, c'est quand même pas négligeable, 61 condèles. Donc, personne, à ma connaissance, peut-être que je connais pas assez bien Biblio, mais je peux pas tout lire, mais je crois pas avoir vu qu'on ait essayé de voir quelles sont les fonctions de ces 61 séquences qu'on a perdu par rapport aux Néandertaliens. Et je pense que ce serait très intéressant de savoir à quoi servent ces séquences, où est-ce qu'elles sont, qu'est-ce qu'elles régulent, pour voir ce qui nous sépare de Néandertal, ou ce qui plutôt rapproche Néandertal de Pan Paniscus, et qui n'est pas chez nous. Donc ça serait un beau programme de recherche. Un peu trop tard pour le commencer, mais bon, c'est pas grave. Je disais, la taille moyenne des condèles, c'est 2800 paires de base, avec un biais pour les régions qui sont pauvres en dimère guanosine-cytosine, et ça, j'y reviendrai quand je parlerai des méthylations. Ils sont présents sur tous les chromosomes, et il n'y a pas d'enrichissement dans les régions péricentromériques ou subtélomériques. Si je vous dis ça, ça ne vous dit rien, mais en fait, ce sont des régions qui sont hautement instables dans les génomes. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Quand il y a une délétion, on peut penser que ça se fait dans une région instable. En fait, ces condèles ne sont pas dans des régions instables. En fait, comme je viens d'annoncer, c'est plutôt du côté des recombinaisons induites par l'insertion d'éléments transposables qu'il faut aller chercher l'origine de ces délétions particulières, et j'aborderai, je le répète, cette question un peu plus tard. Ne dites pas qu'il est 7 heures, non, j'ai eu peur. Non, on a le temps. Ça va ? Bon. C'est facile cette année, hein ? Fastoche, hein ? Ouais. Mais parce que vous apprenez. D'une année sur l'autre, vous voyez, on devient plus familier qu'un sujet. Et moi aussi, d'ailleurs. Voilà. À l'exception sur les condèles humains qui ont été validés, il y en a 335 qui sont intergéniques, donc entre les génomes. Il y en a 154 qui sont introniques. Et donc, il y en a une sur les 510, dont on ne sait pas très bien... je ne sais pas où elle est, celle-là. Bon, ce n'est pas étonnant. C'est pas étonnant parce que, comme vous le savez, 98% du génome n'est pas codant. Enfin, n'est pas codant pour des protéines. Donc, ce n'est pas étonnant qu'on a plus de chances de déléter dans une région non codante quand les régions non codantes correspondent à 98% du génome. Ce qu'on appelle dans le temps l'ADN poubelle. Donc, ce qui est intéressant, en revanche, c'est un biais de localisation pour une proximité avec des gènes qui ont des activités neurales et des gènes qui sont impliqués dans la signalisation pour les hormones stéroïdes, plus quelques autres gènes. Je ne vais pas vous embêter avec ces autres gènes. Mais ce que je vais vous montrer ici, c'est quelque chose qui est assez amusant. Et c'est une diade l'année dernière, mais un petit peu complétée. C'est une délétion qui a lieu tout près d'un récepteur aux androgènes, testostérone, d'accord ? Donc c'est une région donc qui est délétée spécifiquement chez Sapiens. Et donc, ce qu'ont fait les auteurs là, c'est qu'ils ont cloné ce domaine chez la souris et chez le chimpanzé. Donc ici, c'est... Et puis, ils lui ont mis derrière un gène rapporteur, c'est-à-dire qu'on prend ce domaine, on fait une souris transgénique, on met un gène qui code pour la bêta-galactosidase qui donne une coloration bleue quand il est actif, et donc on peut voir dans quelle région et dans quels organes ce morceau qui était délété chez Sapiens régule l'expression de ce qu'on appelle le gène rapporteur. Et ça pue. Alors là, ils ont, ça c'est le gène, la région donc qui est présente dans le chimpanzé mais pas chez Sapiens. Et ça c'est la région qui est présente dans la souris mais pas chez Sapiens. Et toutes les deux exprimées chez la souris. Alors évidemment, on s'est séparé des souris il y a 70 millions d'années, donc ce n'est pas forcément des manips, mais c'est quand même très intéressant parce que vous voyez par exemple que ce que vous preniez l'élément régulateur de chimpanzé ou de souris, vous voyez que vous avez une expression très forte dans le tubercule génital. Donc ça ce n'est pas tellement étonnant, hein, il s'agit de récepteurs aux androgènes. Hein. Là où vous l'avez aussi, là c'est une section d'un tubercule génital, et vous voyez en fait que c'est dans le mésenchyme qui entoure le futur gland de l'animal. Là c'est autour, c'est dans du derme qui est autour des vibrisses, qui sont ces terminaisons nerveuses que les souris ont sur le museau. Hein. Et puis, ce sont des organes en fait qui sont extrêmement sensibles à la testostérone. Hein. Vous voyez ici, par exemple, que si vous castrez une souris, ses vibrisses diminuent, mais si vous rajoutez de la testostérone, les vibrisses augmentent. Donc, ce sont des éléments qui sont régulateurs de récepteurs aux androgènes, et ça se voit très bien comme ça. Là, c'est le galago spine, c'est des épines qui sont présentes sur le pénis du primate. C'est celui là, il a l'air effrayé parce que il a été castré là, donc l'épine diminue, mais si vous rajoutez de la testostérone, ça repousse, d'accord. Nous on n'a pas ça, c'est comme si on avait très très peu de testostérone, et donc c'est assez intéressant, on n'en a pas, donc on n'a pas d'épine, comme vous le savez, on n'a pas d'épine pénienne. Et c'est probablement lié, ça a des effets sur la durée de la copulation chez Sapiens, qui est beaucoup plus longue, enfin ça dépend des Sapiens, mais qui est beaucoup plus longue que chez ce petit bonhomme-là, et chez la plupart des singes, chez qui ça va très vite, parce qu'il y a évidemment une augmentation de la sensibilité qui est liée aux épines péniennes. Donc c'est sous le contrôle des androgènes, hein. Comme vous voyez ici, on voit très bien la diminution de la taille. Et puis, c'est très très fréquent hein, chez les mammifères, des épines caroténisées par-dessus les récepteurs du terme glandulaire. Voilà. Donc, c'est régulé par la testostérone, comme vous voulez dire. Donc, alors, les auteurs citent un autre auteur qui s'appelle M. Dixon, qui écrit un livre sur la sexualité des primates en 1998. Et il avance cette idée un peu étrange, que, mais probablement juste, hein, que la simplification de la morphologie pénienne est associée avec des stratégies monogamiques de reproduction chez les primates. Alors, pour ce qui est du cours, qui s'intéresse essentiellement aux différences entre humains, chimpanzés et bonobos, bien que vous verrez que je parlerai des corbeaux dans un instant. Cette modification s'accompagne d'une féminisation des canines. Nos canines sont beaucoup plus petites, hein, mais ça c'est aussi un caractère sexuel secondaire des mâles qui disparaît chez nous. Et puis d'une taille modeste des testicules et d'une mobilité réduite des spermatozoïdes. Et puis d'une permanence d'un volume important des glandes mammaires chez la femelle en dehors des périodes d'allaitement. Alors, d'après les auteurs, ces traits auraient favorisé la vie en couple monogame et une augmentation des soins prodigués aux petits par le père. Donc on est là dans un cas assez clair de perte de dimorphisme sexuel qui pourrait, voire plus haut, caractériser notre espèce. Alors je m'étais interrogé l'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec une pointe d'ironie, une fois n'est pas coutume, sur le rapport entre ces traits et la monogamie. Et donc j'ai été regarder d'un petit peu plus près pourquoi est-ce que c'était de la monogamie. Je ne voyais pas le rapport avec la monogamie. Et en fait, je dirais qu'il s'agit surtout de la monogamie des femelles plutôt que celle des mâles, ce qui expliquerait le ralentissement de la vitesse de déplacement des spermatozoïdes. En effet, si une même femelle copule avec plusieurs mâles en même temps, le mâle qui va gagner, c'est celui qui a le spermatozoïde le plus rapide. Ça va de soi. Mais si elle est monogame ou monoandre, c'est-à-dire qu'elle n'a qu'un seul type, lui, il n'a plus de compétition, et à ce moment-là, il n'y a plus de pression sélective sur son spermatozoïde, il peut se laisser un peu aller, le spermatozoïde. Donc, voilà. Dans l'autre sens, alors ça, c'est en dehors des périodes d'estrus, c'est pendant les périodes d'estrus. En dehors des périodes d'estrus, elle peut devenir polyandre de nouveau, donc pas très bien, à moins d'avoir une morale d'un certain type, mais bon, c'est juste pour les périodes de reproduction. Bon, tous les animaux n'ont pas les mêmes périodes de reproduction, comme vous le savez. Et dans l'autre sens, je veux dire, polygynie, je ne vais pas tirer de conclusion, je n'ai pas assez réfléchi à la question. Voilà. Donc je passe là-dessus. Je passe aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, je vous avais un petit peu embêté avec la différence de réaction des humains et des bonobos et des chimpanzés devant des scènes émotionnelles, par exemple, ou devant le bâillement. Je ne sais pas si vous vous rappelez des choses comme ça. Donc ça, je passe, parce que vous pouvez avoir accès au cours de l'année dernière. Et je vous rappelle quand même, puisqu'on est dans la sexualité, que l'importance sociale des activités sexuelles, dont la fréquence est un fort signe prédictif de bien-être général et de qualité des relations sociales. Alors, chez le bonobo, le sexe est utilisé comme une forme de bienvenue, un moyen de créer du lien social, de résoudre les conflits, de se réconcilier après les conflits. Les bonobos sont les seuls primates non humains qui ont des rapports sexuels frontaux, qui s'embrassent avec la langue et qui pratiquent le sexe oral. Ils ne forment pas de couple monogame. Alors ça, c'est en tout cas pour les comportements sexuels non directement tournés vers la reproduction, procréation, voire plus haut. Et ils ne discriminent ni sur la base de l'âge, ni sur celle du genre. La famille pour tous, là, voilà. Plutôt la manif pour tous, pardon. La découverte de nouvelles sources de nourriture les excite et conduit rapidement à des activités sexuelles de groupe, ce qui décroît probablement les tensions et permet un partage apaisé de la nourriture. Alors, il existe, je l'avais dit l'année dernière, il existe une exception à la non-discrimination de l'âge qui serait peut-être le tabou mère-fille-adulte, mère-fils-adulte. Alors, un ami ici présent, pour rien vous cacher, a attiré mon attention pas plus tard que samedi sur le livre de Bernard Chappet qui s'appelle « Aux origines de la société humaine, parenté et évolution », récemment paru aux éditions du Seuil, et dont il y a une recension qui a été faite dans le monde des livres la semaine dernière. Et l'auteur analyse les relations de parenté entre, chez les grands singes et se penche sur la question de l'évitement de l'inceste, qui, vous le savez, depuis Lévi-Strauss, marque, ou est censé marquer, la transition entre la nature et la culture. Donc, je vous cite l'article du Monde parce que je n'ai pas eu le temps ni de me procurer, ni de lire le livre depuis samedi. On a eu des amis qui ont dû dîner à la maison samedi soir. Voilà. Et d'après l'auteur et l'article du Monde, les rapports consanguins n'existent pas chez les primates. En effet, à l'âge de la maturité sexuelle, les femelles chimpanzés et bonobos, ainsi que les mâles gorilles, quittent définitivement leur groupe de naissance pour un autre afin de trouver un partenaire sexuel. Le fait qu'ils soient élevés ensemble auprès de leur mère, longtemps après le sevrage, leur permet de distinguer leurs frères, leurs sœurs et leurs aïeux, grand-père ou grand-mère. La reconnaissance des membres de sa propre famille étant la condition sine qua non pour éviter l'inceste. Non pas par puritanisme des singes, mais par les conséquences de l'effet Westermarck, qui a été décrit au début du siècle dernier par l'anthropologue finlandais du même nom, selon lequel chez les primates, plus le degré de familiarité est élevé entre deux individus, plus l'indifférence sexuelle augmente. Alors, je n'en tire aucune conclusion sur les effets de la promiscuité conjugale, mais je vous livre celle de l'auteur, qui est que l'évitement de l'inceste serait donc naturel et remonterait à plusieurs millions d'années. Dès lors, il ne serait pas plus une création humaine que l'échange de partenaires entre groupes, comportement remontant à plusieurs millions d'années. Alors, toujours en suivant le Monde, ça se truc quand même, hein. Bernard Chappet reconnaît qu'en 1949, date de publication du livre de Lévi-Strauss, les connaissances en primatologie étaient passablement ténues. En revanche, il se montre moins complaisant avec ses collègues anthropologues contemporains, j'espère qu'on n'est pas filmé, qui persistent à ignorer systématiquement les facteurs biologiques dans l'explication des phénomènes sociaux. D'après lui, la polygamie serait anecdotique, relativement récente à l'échelle de l'humanité, et réservée, c'est pas pour des raisons de nature, vous allez voir, et réservée à un petit nombre d'individus suffisamment riches pour nourrir plusieurs femmes. D'où le fait que la monogamie soit le modèle le plus largement répandu chez les humains. Elle aurait été adoptée par Pan Homo, notre ancêtre commun avec les deux chimpanzés, enfin avec les chimpanzés et les bonobos, pour ses avantages. Elle limite les efforts que doivent fournir les mâles pour nourrir leur progéniture, évite la concurrence sexuelle pour les femelles, permettant ainsi une coopération, une interdépendance dans le groupe et des relations plus pacifiées avec les autres. Heureusement, Bernard Chappet nous rappelle que les quantités de comportements propres à l'homme, dit Le Monde, comme les alliances, très utiles en cas de conflit, ou le contrôle parental sur les choix conjugaux, autant de domaines dans lesquels la nature humaine continue d'exceller. La nature humaine, on en reparlera la semaine prochaine. Donc, pour revenir à mes singes, le comportement des bonobos est, je vous l'ai dit, très différent de celui des chimpanzés. Les mâles sont dominants chez les chimpanzés, les sociétés bonobos sont matriarcales, les chimpanzés sont des guerriers, ils n'aiment pas les étrangers, les bonobos sont pacifiques et ne s'entretuent pas, et préfèrent partager la nourriture avec les étrangers plutôt qu'avec des congénères familiers. Alors ces différences sont des pendants anatomiques, hein, avec du côté des bonobos, plus de matière grise dans les noyaux de l'amygdale et de l'insula. L'amygdale, elle est là, hein. Deux régions qui sont engagées dans la perception des émotions, les siennes et celles d'autrui. Donc c'est toujours cette question de l'empathie, de partager l'émotion avec les collègues, et d'imaginer ce que peut ressentir la personne qui est en face de vous. Donc, et dans le contexte singulaire, on voit un nombre plus élevé de cellules de von Economo, dont je vous ai parlé la semaine dernière, qui sont aussi présentes chez Sapiens dans le contexte singulaire, et qui sont impliquées dans la cognition sociale. Alors l'année dernière, j'avais passé un peu de temps sur le développement extra-utérin pour l'enjeu du cortex, surtout le cortex frontal. Donc j'ai juste une diapositive pour vous rappeler ça. Voilà ici un cortex frontal. Vous voyez ici la maturation, c'est la baisse de l'excitation, l'augmentation de l'inhibition, ça correspond à la période critique. Vous voyez que dans le cortex préfrontal, ça se passe très tardivement, hein, vers 15 et 20 ans. Donc c'est quelque chose qui a à voir avec les maladies psychiatriques. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que j'en ai souvent parlé. J'ai vu passer à l'extrême, hein, c'est-à-dire au vieillissement total, avec le travail de Sherwood et collègues qui ont comparé le cortex de 99 chimpanzés âgés de 10 à 51 ans et de 87 humains de 22 à 88 ans. Et donc, je vous avais dit l'année dernière que les traits qui caractérisent notre espèce sont un gros cerveau, ça on le sait maintenant, hein, une longévité augmentée, qui nous expose à des neuropathologies uniques, comme la maladie d'Alzheimer. Et pour renforcer notre optimisme, j'avais rappelé que le vieillissement sain, le nôtre, hein, ici, s'accompagne à des degrés divers d'atteinte du système nerveux, de défaillance cognitive, des défauts diffus de plaques amyloïdes, des attritions dendritiques, une réduction du nombre de synapses, une perte de récepteurs glutamatergiques, dégénérence d'axones myélinisés, enfin bref, qui touchent préférentiellement, il y a des niveaux variables, selon les individus, les régions du cortex cérébral humain qui sont impliquées dans l'apprentissage, la mémoire et les fonctions exécutrices. Les mêmes changements accompagnent probablement la sénescence de tous les primates. Mais, chez les humains, il y a en plus, on le voit, une diminution du volume cérébral, des rétrécissements sélectifs de certaines régions cérébrales, une vulnérabilité particulière de l'hippocampe et des lobes frontaux. Les macaques sont moins sensibles à ces atteintes liées à l'âge. Ce qui n'explique pas des atrophies plus subtiles du cortex. Ben, chez eux, on voit moins la différence, probablement moins grande. La question est donc posée de l'influence de notre durée de vie exceptionnelle sur l'étendue des dégénérescences cérébrales qui sont observées dans notre espèce. Alors, des plaques amyloïdes diffuses, des atteintes vasculaires, ont été notées dans l'hippocampe et le néocortex de chimpanzés, des gorilles et des orang-outans âgés. Les neurofibrilles, c'est un truc qui est aussi un truc de la maladie d'Alzheimer, ont été observés chez une femelle chimpanzée de 41 ans. Alors, ce dernier point, que finalement, ils ne sont peut-être pas mieux lotis que nous, ça me console moyennement, a été renforcé par des données nouvelles. Un article paru cet été dans la revue Science s'interroge sur la possibilité que certains très vieux chimpanzés puissent être atteints de la maladie d'Alzheimer. Le voilà. Donc, cette hypothèse s'appuie sur l'examen de cerveau de 20 chimpanzés âgés de 37 à 62 ans. Alors, 62 ans pour un chimpanzé, c'est inouï, quoi. C'est vraiment des très, très vieux, qui sont morts en captivité. Sur ces 20 cerveaux, 13 avaient des plaques amyloïdes et des fibrilles du type Alzheimer, des fibrilles qu'on retrouve dans le cerveau des patients humains. Alors, on n'a pas pu leur faire un test cognitif. De nouveau, on a beaucoup de mal à manipuler les chimpanzés sur le plan expérimental, pour décider si c'était vraiment malade. Parce que c'est quand même le test cognitif qui nous dit si on est malade ou pas. Beaucoup d'entre nous avons déjà des plaques et des tangles. Mais sur le plan cognitif, ça fonctionne à peu près. Il n'y a pas de contrôle dans la manip, mais vous venez ici, bon, c'est un bon signe. Donc, même s'il y a des difficultés qui sont liées à définir la correspondance entre les âges sur la même chose, c'est-à-dire faire une correspondance entre les âges des différents primates, ce n'est pas forcément quelque chose de simple. Je crois qu'on peut dire quand même que notre espèce est plus sensible au vieillissement cérébral. Voilà. Donc, je peux vous montrer par exemple ici, voilà, je vous l'avais montré l'année dernière, mais je vous la remonte parce qu'elle est vraiment très désespérante. Il faut mieux prendre ça avec un peu de légèreté parce que sinon, il n'y a plus qu'à mettre fin à la longévité. Hein. Donc, là, vous voyez, c'est dans le néocortex. Là, c'est la matière grise. Hein. Donc, vous voyez que chez un chimpanzé, jusqu'à un âge relativement avancé, il n'y a pas vraiment... Alors, la première chose à voir, c'est grande variation interindividuelle. Donc, vous pouvez toujours vous dire que vous êtes du bon côté. Vous voyez, il y a des très vieux sapiens qui en ont plus que des jeunes. Donc, ça, c'est plutôt encourageant. C'est-à-dire que c'est comme quand on a un vélo avec un moteur électrique. On peut, voilà, on peut passer devant un jeune et faire comme ça. Donc, il y a une grande variabilité, mais il reste que, alors que chez le chimpanzé, ça ne bouge pas tellement, chez nous, ça bouge. Et voilà, le rouge, là, vers la soixantaine, c'est la période où ça commence à basculer pas mal. Oui, humain, chimpanzé. Et là, c'est la matière blanche, c'est pareil, il y a un moment où, ça, c'est plus tard, pour la matière blanche, où ça bascule aussi. Mais de nouveau, vous voyez, par exemple, ce sapiens de 80, ici, il en a plus que ce sapiens de 20. Donc, chacun d'entre nous peut se dire qu'il est du bon côté. Alors, soyons optimistes. Hein. Mais c'est clair que sapiens a une tendance quand même à vieillir cérébralement de façon un peu inquiétante. Mais ça a aussi une fonction, ce vieillissement, la survie des... Alors, tous ces chimpanzés ne vivent pas au-delà de la période de fécondité, alors que chez Sapiens, on vit bien au-delà de la période de reproduction sexuelle, ce qui est lié à une fonction très importante, hein, bien entendu, qui est... il y a une pression évolutive là-dessus, c'est-à-dire que les individus âgés participent à l'éducation des petits. Ils ont aussi des connaissances qui peuvent jouer un rôle important. Par exemple, comment se comporter à l'approche d'un tsunami, un truc comme ça. Le vieux peut raconter, ah, attention, mais... Bon, ça, c'était avant Google. Maintenant, on n'a plus besoin de ça. On n'a plus qu'à taper sur Google et on sait comment il faut faire. Donc, voilà. Donc, si je reviens maintenant aux questions d'anatomie cérébrale, vous me laissez un petit peu de temps encore. Vous n'êtes pas trop fatigué, on peut avancer un peu parce que ce serait bien d'avancer un petit peu dans le cours. J'ai encore besoin d'une petite dizaine de minutes. Puis je suis sûr que vous êtes très impatient de savoir ce qui se passe avec les corbeaux. Non ? Parce que tout le monde dit toujours et les corbeaux ? Alors, j'ai jamais voulu regarder. Alors, et les dauphins ? Et les corbeaux ? Enfin, les dauphins, ce sera pour l'année prochaine, si on vit jusque-là. Et les corbeaux, ce sera pour cette année. D'accord ? On ne peut pas tout faire. Donc, si on revient sur la question de l'anatomie cérébrale, vous savez que nous, on a un néocortex qui a 6 couches, et que ces 6 couches dans le néocortex, c'est une invention des mammifères. Chez Sapiens, bon, ce néocortex, c'est 80% du poids du corps, ce qui est considérable. C'est considérable parce que c'est 80% du poids du cerveau, pardon, heureusement, 80% du poids du cerveau, avec 20% des neurones, ce qui veut dire une augmentation incroyable du neuropile. Donc, en fait, ce qui a augmenté chez Sapiens, c'est non seulement la taille, non seulement le nombre de neurones, mais c'est, je cise beaucoup là-dessus, c'est la connectivité, c'est-à-dire c'est la signalisation. Donc on a un truc là-haut qui est simplement ahurissant. C'est aussi pour ça que ça vieillit plus vite, parce que ça consomme énormément d'énergie, ça produit des radicaux libres, il y a du vieillissement qui est lié à cette activité de signalisation qui est simplement démentielle. Dans un cerveau d'humain comparé à un cerveau de chimpanzé, qui est vraiment ridicule là-dessus. Ils ont 4 fois moins de cerveau, ils ont 3 fois moins de neurones, ils ont moins de neuropiles. C'est pas étonnant. Et en plus, ils ont un cortex préfrontal qui est plus petit. C'est pas étonnant s'ils sont pas très malins. Taille, structure, complexité du neuropile entrent en synergie pour expliquer la monstruosité cognitive de notre espèce. Alors, il y a d'autres régions corticales qui sont plus anciennes, les paléocortex, comme le cortex piriforme pour les odeurs, ou l'hippocampe, qui ont 3 couches seulement, Mais le passage 3 couches, 6 couches est lié à l'expression d'un facteur de transcription. J'en avais parlé l'année dernière. Elle est checks tout. Je ne vais pas vous embêter avec ça. J'y reviendrai peut-être plus tard, hein, si j'ai le temps, mais je ne pense pas que j'aurai le temps, clairement, sur le rôle de ces facteurs de transcription dans la compartimentalisation du cortex. Mais c'est quelque chose que j'avais raconté l'année dernière. Donc, j'encourage à aller chercher un tout petit peu ce qui se passe. Alors, comme vous le montre cette diapositive, les premiers primates sont arrivés il y a 85 millions d'années, hein, c'est ici. Voilà. Et là, il y a les dates essentielles des différentes clades, je n'insiste pas. Le cortex à six couches, le néocortex, donc, s'est installé après la séparation avec les sauropsidés, ici. Hein. Et les trois couches, ben, vous voyez ici, hein, c'est des cortex de reptiles et des cortex d'oiseaux. Donc, ce ne sont pas forcément des animaux idiots. Hein. Neil rappelle que l'hyperpallium est le nidopallium hein, chez les oiseaux, ont des régions sensorielles primaires qui sont l'équivalent du sensoriel primaire humain, enfin de mammifère, S1, ou visuel primaire comme V1. Le nidopallium, il y a des aires auditives de type A1 dans le, et puis une autre région visuelle. Alors, et l'expansion du pallium chez les oiseaux a joué le même rôle que celle du cortex à six couches chez les mammifères. Et l'auteur rappelle que les corvidés, les corbeaux, ont une taille de cerveau proche de celle de certains singes, rapportée au poids du corps. Alors, cette observation est à mettre en correspondance avec le comportement complexe de cette espèce, tel qu'il a été rapporté par plusieurs auteurs. Donc, cette diapositive ici vous dit d'abord qu'il y a 46 espèces de corbeaux. On ne peut pas dire les corbeaux. Hein. Il y a 46 espèces de corbeaux, c'est pas rien. Et il y a certains corvidés qui ont un usage naturel, apparemment sans apprentissage génétique, d'outils de forage. Il est là en rouge et là en vert. Donc, ce sont les corbeaux de Nouvelle-Calédonie qui ont un usage des outils, qui est une pratique assez rare chez les corvidés, mais qui est étendue par leur observation à des corvidés hawaïens, hein, qui sont ici, voilà, et qu'on appelle les alala. Je ne sais pas comment ça se prononce, mais bon. Et qui ne vivent plus aujourd'hui qu'en captivité. Il n'y a plus de alala sauvage en Hawaï. Voilà. C'est très triste. Donc, ils ont testé 104 corvidés hawaïens. Il y en a 5 qui n'étaient pas en bonne santé, on les a mis de côté. Ils ont trouvé que 80% de ces oiseaux utilisent spontanément des outils pour aller chercher de la nourriture qui n'est pas à leur portée. Donc, c'est comme ça, vous voyez, par exemple, vous avez une bûche là, et donc, ils prennent une brindille, ils vont aller chercher au fond du trou l'asticot, le truc qui est vraiment caché. Donc exactement, vous vous rappelez la brindille à termite du chimpanzé, hein, c'est pareil quoi. Mais ces oiseaux sélectionnent les outils de la taille appropriée. Quand l'outil est abîmé, ils le remplacent. Et quand ils n'en ont pas, ils vont le chercher. Voilà, et puis ils l'utilisent. Ils modifient l'outil, ils le raccourcissent quand il est trop long, par exemple. Bon, ils ont un comportement donc assez complexe sur le plan cognitif, entre guillemets, hein, qui rappelle le maniement de la brindille à termite des chimpanzés. Alors, il n'y a pas de différence entre les sexes. Hein, les mâles et les femelles sont aussi bons. Hein, vous voyez ici. Là, je pense que j'ai des mâles et des femelles quelque part. Je ne sais pas où j'ai mis ça. Oui, male versus female, voilà. Là, c'est deux foyers de... Bon, il n'y a pas de différence. De foyers d'oiseaux, de centres de conservation des oiseaux. Il y a un problème d'âge. Hein, vous voyez qu'à 1 ou 2 ans, ils ne sont pas très bons. C'est le bleu, les bons. Hein. Ils ne sont pas très bons, mais vers 3-6 ans, c'est très bien. 7-10 ans, ils sont parfaits. Peut-être une petite perte cognitive vers 11 ans. Bon, tout le monde vieillit, même les corbeaux. L'utilisation de l'outil est immédiate. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de l'apprendre, c'est immédiat. Même s'ils sont moins bons pour aller chercher verticalement. Ils préfèrent chercher latéralement, pas pourquoi. Et donc la question du caractère génétique du comportement chez les corbeaux de Nouvelle-Calédonie est importante, a été posée. Elle avait été démontrée pour les corbeaux de Nouvelle-Calédonie. Alors, si vous regardez, et c'est de nouveau le même problème, excusez-moi, si vous regardez l'arbre généalogique des Hawaïens et des Calédoniens, vous voyez qu'ils se sont séparés beaucoup plus tôt et que si c'était la même modification génétique, tout le monde aurait cette propriété. Donc de nouveau, c'est de la convergence évolutive. C'est-à-dire que c'est un trait qui est apparu séparément chez les Hawaïens et chez les Nouveaux-Calédoniens. D'accord ? Exactement comme ce que je racontais sur l'agressivité ou le manque d'agressivité entre les bonobos et les sapiens. Donc, la question du comportement est probablement génétique, mais sensible à l'environnement. Par exemple, le comportement est inhibé par la présence d'autres corbeaux. Vous voyez ici, si vous les mettez, ces corbeaux, dans un groupe, alors ils ne vont plus utiliser l'outil. Hein, les copains autour, ça les dérange. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Donc, ce qu'on pense, c'est que c'est un comportement génétique, donc ce n'est pas appris, même si ça peut être sensible à l'environnement. Voilà. Alors, les auteurs abordent donc la question de la captivité. Je rappelle que cette espèce animale, que des espèces animales qui n'utilisent pas des outils dans le monde sauvage peuvent le faire en captivité. Le cas des corbeaux à Lala est assez inhabituel. D'abord, tous les adultes utilisent des outils avec une très grande dextérité. Et les sujets naïfs, hein, qui arrivent comme ça, paf, ils développent ce comportement de façon indépendante. Donc, pas en apprenant, en regardant un autre corbeau faire le truc. Pas besoin de leur montrer, quoi. D'autres espèces qui ne sont pas utilisatrices d'outils peuvent apprendre, mais n'atteignent jamais le niveau de dextérité de ces corbeaux. Et sur le plan de l'évolution des espèces, les oiseaux Alala vivaient à l'état sauvage dans les îles Hawaï, où ils pratiquaient sans doute le forage pour récupérer des baies ou des invertébrés. Alors, c'est pas la même chose que le forage direct, comme le pivert, hein. Parce qu'évidemment, les oiseaux sont capables d'aller piquer dans un tronc. Parce que chez les corbeaux hawaïens, l'outil prolonge le bec, hein, comme dirait le roi Gourand. Et donc, c'est un comportement qui est évidemment très intéressant, surtout quand il se produit en période de la période de nidification. Parce que quand on fait un nid, on va chercher une brindille et on fait un nid. Donc ça peut dériver d'un comportement de type nidification, puisqu'ils savent aller prendre une brindille pour faire quelque chose quand même. Tous les oiseaux savent faire ça. Bref, comme il n'y a plus d'alala à l'état sauvage, on ne saura jamais, quoi, hein. Mais pour les auteurs, il est probable qu'il s'agit d'un comportement génétique, même si, dans le cas contraire, on devrait admirer la capacité de ces animaux à manier la brindille de façon experte. Un point important, je dirais, c'est la distance évolutive entre les Nouveaux-Calédoniens et les Hawaï, qui suggère qu'il s'agit d'une convergence évolutive, je viens de vous le dire, puisque, très probablement, c'est un comportement inné. Donc, plutôt qu'une homologie, c'est pas une homologie génétique, en tout cas. Enfin, il y a la question des îles. Pour les auteurs, les deux espèces sont, comme les pinsons woodpeckers des îles Galapagos, et qui font la même chose, ont évolué sur des îles au climat tropical où la compétition pour les proies cachées est faible et le risque de prédation est très bas. Deux conditions qui, selon les auteurs toujours, facilitent l'usage de l'outil et pourraient distinguer les oiseaux des îles de ceux qui habitent sur le continent. Théorie qui plairait sans doute à nos amis britanniques. Et j'arrête ici parce qu'il est 35 et que nous reviendrons au cerveau la semaine prochaine. Enfin, au vrai cerveau. Voilà. Le nôtre.